une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous allons beaucoup parler de l'ONU aujourd'hui. Nous ferons bien sûr escale à New York à l'occasion de la 70e Assemblée Générale des Nations Unies. Notre invité a d'ailleurs représenté la France au Conseil de Sécurité. Il s'appelle Alain Dejamet. Tout à l'heure, après le flash, rendez-vous avec l'actualité africaine et avec vos messages, bien sûr. Une semaine d'actualité, donc une émission que vous pouvez aussi écouter sur le site de la radio, RFI.fr, sur votre téléphone portable avec l'appli RFI et que vous pouvez évidemment podcaster. Bonjour Alain Dejamet,
bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes diplomate, on l'est toujours, on est toujours diplomate. Vous êtes ambassadeur de France, ça c'est sûr.
Oui,
hein,
oui
vous avez
oui,
le titre
oui,
d'ambassadeur oui. de France. Vous avez été en poste au Caire et donc à l'ONU, au Conseil de sécurité à New York. C'est une maison que vous connaissez bien, l'ONU. Une maison qui fête ses 70 ans et qui se porte plutôt bien.
Oui, tout à fait. Oui, c'est l'anniversaire. Et les Nations Unies aiment bien maintenant les anniversaires parce que pendant longtemps, elles sont restées un peu indifférentes de 1945 à 1965. Et puis 65, ils se sont dit, tiens, on fait un anniversaire. Ça leur a plu. Alors on a recommencé. Et il y a eu 70, et puis il y a eu 95, et puis du coup on a fait de nouveau un événement exceptionnel à partir de 2011, c'était le passage, le millénaire, et puis 2005, 60e anniversaire, et aujourd'hui 70e anniversaire. Pourquoi cet intérêt pour les anniversaires? Parce que on pense inviter les chefs d'État, enfin on ne les invite pas, les Nations Unies n'envoient pas des invitations, mais c'est les chefs d'État qui de même viennent, ce qui fut le cas. Ce n'est pas toujours le cas, on a surtout relevé que par exemple Poutine n'était pas venu depuis 7 ans, le président américain vient régulièrement, le président brésilien aussi, le président français vient de plus en plus souvent, mais enfin, ce n'est pas quand même la règle, et donc là, c'est un anniversaire, le 70e anniversaire, qui ne sera célébré cependant officiellement que le 23 octobre.
Alain Dejamet, vous aimez écrire, vous écrivez, on en reparlera dans d'autres émissions, vous venez de publier une biographie de Boutros Ghali, vous avez publié en 2003, Supplément au voyage en Onusie, déjà le titre est assez ironique, c'était chez Fayard en 2003, et cette année, l'incendie planétaire, que fait l'ONU, on en avait d'ailleurs parlé dans cette émission, c'est une maison que vous continuez à suivre.
Oui, parce que c'est un petit peu nous tous, hein, la maison ONU, ce n'est pas quelque chose de singulier, 193 pays, nous sommes tous plus ou moins au courant, associés à ce qui se fait, et surtout c'est nous qui sommes les acteurs aux Nations Unies. Donc indéniablement, tout individu normalement constitué a une petite partie d'intérêt pour ce qui se passe là-bas.
Alors oui. On va en parler de tout ça, de la Syrie évidemment, des divergences pour ne pas dire plus entre Washington et Moscou, mais il faut préciser que l'Assemblée Générale, c'est une vaste tribune où chaque État peut s'exprimer. Alors il y a les chefs d'État médiatiques, les puissants, mais il y a aussi les petits.
Les 193 viennent à l'Assemblée Générale. Il y a d'abord la phase du discours hein, qui se déroule depuis l'ouverture. Là, c'était, je crois, vendredi dernier, et jusque par la mi-octobre. Mm-hmm. Puis ensuite, alors là, ce sont les chefs du gouvernement, les ministres des Affaires étrangères qui viennent faire des discours et puis qui s'essaiment ensuite dans les couloirs pour se rencontrer. Et puis ensuite viennent les travaux des commissions qui, elles, élaborent les fameuses résolutions, lesquelles sont adoptées dans la dernière semaine pratiquement de l'Assemblée, par l'Assemblée Générale au mois de décembre. Ça fait un compendium de textes, de documents dont certains ont un effet.
Les textes sont importants à l'ONU.
Les textes sont importants et je crois que là, pardonnez-moi parce que j'entre déjà un petit peu dans le sujet, mais le 70e anniversaire c'était l'occasion de faire le bilan des 15 ans de travaux prévus par l'Assemblée Générale en 2000 lorsqu'elle avait adopté des objectifs du millénaire pour le développement. Elle s'était fixée quand même un objectif de 15 ans. Elle avait fixé 8 objectifs principaux pour le développement. Et je crois que dès l'ouverture de l'Assemblée Générale, le 23 septembre, le secrétaire général a fait un rapport où il recensait les acquis, les résultats atteints. Cela avait été débattu par l'Assemblée Générale, mais pas dans sa formation évidemment de ministre ou de chef d'État durant l'été. Et l'ensemble sera très certainement intéressant à consulter.
Oui, parce qu'il y a d'autres objectifs
tout
fixés.
Tout à fait. Alors, il prouve quand même que ce qui avait été fixé comme objectif en 2000 à l'occasion de l'Assemblée du millénaire a été atteint d'une manière, enfin pas entièrement, loin de là, mais de temps en temps de manière assez raisonnable. Ce n'était donc pas inutile d'avoir des objectifs.
Alors pour commencer, Alain de Jamais, prenons un peu de hauteur si vous le voulez bien. Quittons la Terre pour Mars, où les Américains ont découvert, vous le savez, des traces d'eau liquide. Prélude peut-être à la découverte d'une vie martienne, sait-on jamais, Simon Rosé.
Pour que le directeur des sciences planétaires de la NASA fasse le déplacement lui-même, il fallait que l'annonce soit d'importance. Il y a donc, aujourd'hui encore, de l'eau liquide à la surface de Mars. Elle a été détectée de manière indirecte en observant les traces d'humidité et les écoulements qu'elle a provoqués le long des pentes des cratères de la planète rouge. Attention, cette eau ne coule pas en rivière ni même en ruisseau. Elle ne serait même pas viable pour des micro-organismes, mais elle vient bien de quelque part. L'atmosphère de Mars est trop sèche pour en être à l'origine. Cette eau proviendrait donc du sous-sol de la planète rouge. Il faudra cependant des observations complémentaires pour en être sûr, mais il n'est pas absurde d'imaginer des réservoirs d'eau liquide à quelques mètres de profondeur, un peu comme les nappes phréatiques terrestres. Pour s'en assurer, il faudra forer le sol martien. C'est justement l'un des objectifs de la prochaine mission martienne de l'Agence spatiale européenne, ExoMars, un petit robot à roues capable de percer le sol jusqu'à 2 mètres de profondeur. Lancement prévu en 2018.
Sept jours dans le monde.
Et redescendons sur Terre, Alain de Jamais, avec un choc pour le moins brutal, pour parler de la Syrie et plus précisément de l'engagement militaire russe aux côtés du régime syrien à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, justement. Des divergences sérieuses ont été confirmées entre Russes et Américains. Envoyé spécial à New York, Anne Corpé.
C'était le tête-à-tête le plus attendu de la semaine, mais il a dû être plutôt glacial. Sourire figé, poignée de main crispée et un constat. Le désaccord persiste entre Barack Obama et Vladimir Poutine sur le maintien au pouvoir du président syrien. À la tribune, quelques heures plus tôt, le président américain avait d'ailleurs bien pris soin de préciser ses conditions. Pas question d'envisager le maintien au pouvoir de Bachar al-Assad.
Les États-Unis sont prêts à travailler avec toutes les nations, y compris la Russie et l'Iran, pour trouver une solution au conflit syrien. Mais nous devons admettre qu'après tant de sang versé, tant de carnage, nous ne pouvons pas retourner au statu quo d'avant. Le réalisme nous impose un gouvernement de transition sans Assad, avec un nouveau leader.
Away from Assad and to a new leader. Quelques minutes plus tard à la tribune, Vladimir Poutine avait sèchement rétorqué au président américain.
Nous pensons que c'est une grave erreur de refuser de coopérer avec les autorités syriennes, avec l'armée gouvernementale, avec ceux qui combattent courageusement la terreur.
Selon un responsable de la Maison-Blanche, le déploiement militaire russe en Syrie a été évoqué lors de la rencontre entre les deux présidents et les Américains ont prévenu une opération militaire russe qui viserait à renforcer le régime syrien serait perçue de manière négative à Washington.
Une semaine d'actualité donc avec notre invité Alain Dejamais, diplomate, ambassadeur de France, qui a représenté la France au Conseil de sécurité. Je vous sentais vraiment désireux de parler de Mars avant de parler de la Syrie.
Non, je parle de Mars tout simplement parce que les Nations Unies s'occupent de pas mal de choses, et donc de Mars également, espace extra-atmosphérique. Il y a une convention internationale sur l'espace extra-atmosphérique. Ceci pour dire que cette eau est intéressante. Si le réchauffement climatique continue, évidemment, on sera peut-être tenté un jour d'envoyer des camions chercher de l'eau, des camions citernes à Mars pour la ramener sur Terre. Il faudra pas qu'un état quelconque, on pointe dans le domaine de la technologie extra-atmosphérique, spatiale, s'approprie l'eau de Mars, parce que c'est un bien commun de l'humanité. Voilà, c'est simplement le regard qui a été posé, il y a déjà pas mal d'années, par les Nations Unies, qui prévoyaient qu'effectivement, il fallait sauver ce qui pouvait échapper encore aux souverainetés nationales, donc les fonds marins, au-delà des juridictions nationales, et puis l'espace extra-atmosphérique. Voilà ma simple allusion.
Oui,
j'ai pris de la hauteur de secondes avant de redescendre, effectivement, sur les sols brûlants du Proche-Orient.
Alors, on va parler dans un instant des frappes, des premières frappes de l'aviation russe, mais restons à New York et restons à cet entretien entre Barack Obama et Vladimir Poutine, un entretien glacial, semble-t-il, à en juger par les photos qui ont suivi des deux hommes.
Oui,
des divergences sérieuses.
Très certainement, il y a. Bon, mais la rencontre a eu lieu alors qu'elle n'était pas, ça n'avait pas été le cas depuis quand même un certain temps. Il y a malgré tout un dialogue. Je crois que le dialogue est beaucoup plus intense au niveau des ministres entre Kerry, par exemple, et Lavrov. Ce sont des gens qui se sont entendus, qui ont travaillé. Rappelez-vous 2013, au mois de septembre, octobre 2013, lorsque Kerry a accepté la proposition secrétaire d'État américain du ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov. Et à propos déjà de la Syrie, on était sur le point quand même de frapper en Syrie, et puis voilà qu'une proposition arrive de la part de la Russie, elle est portée par le ministre des Affaires étrangères, mais évidemment avec l'assentiment de Poutine, et ça aboutit à un programme qui d'ailleurs semble-t-il a été raisonnablement bien mis en œuvre, de démantèlement de l'arsenal chimique bactériologique d'Assad. Donc il y a quand même des rencontres, il ne faut pas uniquement quand même se concentrer sur le regard assez froid effectivement d'Obama, ça ne correspondait pas tout à fait, je ne saurais pas décrire la physionomie de M. Poutine parce qu'elle est singulière, mais ça ne correspond peut-être pas totalement à l'idée que perpétuité doit commander l'écart entre les deux États.
Suite d'une semaine d'actualité à l'un de jamais, et aussitôt dit, aussitôt fait, donc, mercredi, l'aviation russe a frappé en Syrie. Contre qui ? La question demeure ou demeurait à Moscou, Muriel Pomponne, ce jour-là.
Moscou affirme que ses avions ont procédé à des frappes de précision, détruisant notamment des équipements militaires, des moyens de communication et des stocks d'armes et de munitions du groupe État islamique. Si l'on en croit la télé syrienne, il s'est agi d'une opération conjointe des aviations russes et syriennes dans les provinces de Hama, Homs et Latakia. Moscou affirme également avoir informé ses partenaires de ses plans et avoir proposé de les associer dans le cadre du centre de coordination mis en place à Bagdad par l'Irak, l'Iran, la Syrie et la Russie. Or, il n'est pas question pour les Occidentaux de parler avec l'armée syrienne. Dans ces conditions, même si les Occidentaux s'attendaient à une action russe, ils ne s'attendaient peut-être pas à ce qu'elle ait lieu aussi rapidement, alors qu'il n'existe pas encore de coordination militaire. Cette action est intervenue quelques heures avant que la Russie ne présente à l'ONU un projet de résolution pour coordonner toutes les forces qui font face à l'État islamique et aux autres structures terroristes. Une coordination difficile à imaginer tant que les Russes persistent à vouloir y associer les Syriens.
Alors à Washington et à Paris, l'objectif de ces premières frappes soulève encore une fois des questions. Washington mercredi, Anne-Marie Capomaccio.
On est extrêmement prudent à Washington après ces premières frappes et la rencontre d'hier soir à huis clos entre John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov n'efface pas la tension de la journée. Le Pentagone estime en effet que l'aviation russe a, je cite, vraisemblablement ciblé l'opposition à Bachar el-Assad et non les terroristes de l'État islamique. Les informations sont en cours de vérification, dit-on au ministère de la Défense. Qu'en est-il donc de l'indispensable coordination militaire entre Américains et Russes? Les premières réunions pourront avoir lieu dès ce jeudi, affirme John Kerry. Mais tout cela a bien mal commencé quand on sait que Moscou a prévenu les Américains une heure seulement avant ces bombardements par un message envoyé à l'ambassade des États-Unis en Irak. La Maison-Blanche, le Pentagone et le Département d'État ont joué la prudence et la désescalade, pour employer le terme du secrétaire d'État américain, mais l'embarras est réel sur la suite des opérations. Les sourires figés de John Kerry et Sergueï Lavrov hier soir ne laissaient rien transparaître.
Anne-Marie Capomaccio, donc mercredi à Washington, et retournons à New York, à l'un de jamais, pour revenir sur un geste symbolique. La levée des couleurs de la Palestine devant le siège de l'ONU, c'est désormais le 194e drapeau qui flotte devant la tour de 38 étages au bord de l'East River. Reportage d'Anne Corpé.
Des applaudissements, quelques you-you et les couleurs palestiniennes s'élèvent devant l'immeuble des Nations Unies. Sous un ciel gris, le président de l'autorité palestinienne salue le drapeau, Mahmoud Abbas.
C'est un jour de fierté et d'honneur pour le peuple palestinien. Nous le dédions à tous nos martyrs, à nos prisonniers, aux blessés, à tous ceux qui ont perdu leur vie en brandissant ce drapeau.
Le secrétaire général de l'ONU, lui, se prend à espérer. Ban Ki-moon.
Puisse l'élévation de ce drapeau faire grandir l'espoir que la création d'un État palestinien est possible. Continuons à travailler ensemble pour réaliser les aspirations que ce drapeau incarne. Israéliens et Palestiniens vivant côte à côte dans la paix et la sécurité.
Mais le matin même, à la tribune, le dirigeant palestinien n'avait pu que constater l'échec du processus de paix. Mahmoud Abbas a déclaré qu'il suspendait l'application des accords signés avec Israël.
Suite à une semaine d'actualité, donc on va reparler de la Russie, cette fois sur le plan militaire. Alain de Jamais, j'ajoute que 12 djihadistes de l'État islamique auraient été tués dans un premier raid russe sur Raqqa, le fief de l'État islamique jeudi. À l'ONU, jeudi également, un discours enflammé de Benjamin Netanyahou qui a marqué un silence de 45 secondes pour marquer l'importance, selon lui, de l'indifférence de la communauté internationale sur ce qui se passe en Iran, selon lui. Et j'ai une question d'un auditeur qui est Fousseni, qui se pose la question. Ma question est de savoir pourquoi l'Occident s'obstine à couper de l'herbe sous les pieds des Russes.
Oui, parce qu'il rattache cette question à l'idée, bien largement entendue, qu'il faut distinguer entre ce qu'est le pire et puis le moindre mal, et que donc il faut essentiellement s'attaquer au mal absolu qu'est l'État islamique, et donc accepter, enfin c'est un thème effectivement tout à fait entendu. Mais en fait, on ne coupe pas l'herbe sous le pied des Russes lorsque ils se déclarent prêts à attaquer les djihadistes, enfin l'État islamique, et il semble d'après ce que je viens d'entendre, que ça aurait été fait quand même à Raqqa, parce que Raqqa, c'est évidemment quand même un site islamique. Mais il était archi évident de l'autre côté que ce que font les Russes, ils imaginent que cela ne peut pas desservir les intérêts d'Assad, et que certaines frappes dans des régions beaucoup plus proches, en fait, des bases tenues par le régime syrien, ces frappes sont destinées quand même à protéger le régime syrien. Mais ce sera quand même extrêmement difficile, et c'est la raison pour laquelle il faut indéniablement beaucoup d'informations. Parce que si vous regardez les cartes qui étaient publiées récemment sur la poussée territoriale de l'État islamique, on voyait des pseudopodes, des pédoncules qui s'avançaient tout proche de Homs ou de Hama. Donc il y aura certainement des partisans de la thèse russe pour essayer de développer l'idée que on pouvait frapper là parce que c'était déjà des zones très à l'ouest en fait, et qui étaient proches des régions tenues par le régime d'Assad. Est certaine, pardonnez-moi, oui. Non, excusez-moi.
En tout cas, on sent, Alain de Jamais, que la tension a monté d'un cran cette semaine.
Elle a monté d'un temps, mais d'un autre côté, les ponts ne sont pas coupés du tout. Je crois qu'il est absolument impératif qu'il y ait information. Coordination, à l'ouest, on va s'inquiéter, enfin, en Occident, parce qu'on se dira, il ne faut pas que cette coordination nous entraîne à frapper des rebelles que nous considérons comme modérés, etc. Information indispensable. Il y a plusieurs aviations qui sont en jeu. Alors évidemment, elles ont peut-être des zones qui ne sont pas tout à fait, qui ne se recoupent pas, mais elles se recoupent si des avions russes frappe à Raqqa, elles peuvent trouver quand même dans l'environnement des avions américains ou même des avions français, ou des avions quand même de ce qu'on appelle la coalition. Donc il est indispensable qu'il y ait coordination, et là je ne doute pas que les deux ministres, Kerry et Lavrov, et puis les autres aussi, vont essayer quand même de mettre un petit peu d'ordre dans cette campagne.
Alors il y a la question aussi palestinienne que vous avez eu à traiter en tant qu'ambassadeur à l'ONU, c'est une question qui revient régulièrement, mais là il y a ce geste symbolique du drapeau hissé au pied de la tour de l'ONU.
Oui, qui est un geste fort, parce que généralement, ce drapeau, ça signifie quand même la plénitude de l'État. Or, ce n'est pas le cas encore pour la Palestine, du moins aux Nations Unies, puisqu'il faudra un vote du Conseil de sécurité, enfin, vous le savez. Mais c'est un geste fort. Ce qui est à retenir aussi, c'est la déception, l'amertume du dirigeant palestinien lorsqu'il dit qu'il va suspendre l'application des accords. Il s'agit des accords d'Oslo, ça remonte. Alors évidemment, ces accords d'Oslo, ça remonte à 93. Ils ont été très largement ignorés, bafoués, etc. Mais il n'est pas totalement déraisonnable, alors même que nous parlons aujourd'hui d'économie, d'environnement, etc., de réchauffement climatique, de rappeler quand même, et puis de la crise moyen-orientale, si on peut s'en compter l'Ukraine, de rappeler quand même la centralité du problème palestinien. Et ça, je pense qu'effectivement, il y a eu un geste fort qui correspond peut-être pas totalement à la réalité prise par Mahmoud Abbas. Et puis, il y a ce drapeau qui est élevé, qui est un geste, et qui n'a pas visiblement été contesté juridiquement. Il n'y a pas eu de débat, on est sur le médicament, etc. C'est donc de l'ordre du raisonnable, cette manifestation.
Alain de Jamais, nous allons nous arrêter un instant avant d'écouter quelques nouvelles du monde, et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction et notre invité.
Une semaine d'actualité.
Notre invité est Alain Dejamet, ancien ambassadeur au Caire et au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans un instant, destination l'Afrique, bien sûr, Centrafrique, Burkina Faso, Afrique du Sud. Mais restons en France d'abord avec, c'est comme pour l'Assemblée générale de l'ONU, dès que les feuilles tombent des arbres, on parle budget à Paris. Patricia Lecomte.
L'objectif prioritaire du gouvernement pour 2016 est de maîtriser le déficit qui doit passer de 3,8% du PIB en 2015 à 3,3% l'année prochaine, avec l'espoir de le ramener en dessous des 3% dès 2017, comme Paris s'y est engagé auprès de Bruxelles. Autre priorité, la baisse des impôts de 2 milliards d'euros pour les ménages et les réductions des prélèvements et des cotisations pour les entreprises à hauteur de 9 milliards d'euros. Pour financer ces promesses, Bercy annonce 1,3 milliard d'euros d'économies supplémentaires que l'État va trouver dans des mesures impopulaires comme la baisse des aides au logement ou encore dans la réduction de 3,5 milliards d'euros des dotations de l'État aux collectivités locales. L'État participera aussi à l'effort. Michel Sapin a annoncé que les économies sur la dépense publique seront plus importantes que prévues, 16 milliards d'euros contre 14,5 milliards initialement envisagés. Les ministères vont également se serrer la ceinture. Un peu plus de 5 milliards d'euros d'économies sont attendus, notamment dans les frais de fonctionnement. Seuls seront épargnés les ministères prioritaires tels que l'éducation, l'emploi, la sécurité et la culture.
Alain Dejamet, nous avons pris de la hauteur tout à l'heure en parlant de mars. Nous sommes obligés donc, je le confirme, de redescendre au niveau zéro en évoquant cette fois la politique française et des propos d'un membre du parti Les Républicains, Nadine Morano, Pierre Firsian.
En maintenant ses propos sur la France, qu'elle considère donc comme un pays de race blanche, et en promettant de dézinguer Nicolas Sarkozy s'il se présente à la présidentielle, Nadine Morano a scellé définitivement son propre sort. C'est désormais une certitude, son investiture en Meurthe-et-Moselle pour les prochaines régionales lui sera retirée prochainement par la Commission nationale d'investiture, une commission qui a été saisie ce matin du problème à la demande de Nicolas Sarkozy, ce dernier qui ne s'est pas privé de cogner devant les cadres du parti sur son ancienne protégée.
J'adore le débat, mais je n'accepterai aucun dérapage. Parce que parfois j'ai l'impression que certains dérapages sont dits plus un souci de publicité personnelle qu'à une réflexion approfondie.
Philippe Richert semble lui avoir déjà tourné la page, Morano, pour la tête de file des Républicains dans la grande région Est. L'ancienne ministre était beaucoup trop obnubilée par sa candidature aux primaires de 2016.
Elle est entièrement engagée dans cette campagne des présidentielles, ce que je regrette beaucoup parce que j'aurais bien volontiers fait campagne avec elle, mais c'est vrai qu'avec les déclarations qu'elle a faites d'un côté, puis surtout ce qu'elle a rappelé ce matin, c'est juste pas possible.
La question qui se pose maintenant est de savoir si dans ces conditions, Nadine Morano peut encore rester membre des Républicains. Si pour l'instant personne n'en appelle à son exclusion, un cadre de premier plan craint qu'elle ne continue de multiplier les dérapages, et ça peut l'amener à être mise sur la touche, conclut-il.
Suite d'une semaine d'actualité en France et en Afrique aussi, Alain Dejamet, avec cette fois la saisie de biens immobiliers du président congolais Denis Sassou Nguesso, Franck Alexandre, mercredi.
S'il était déjà dans le collimateur de la justice française, tout comme les familles Obiang et Bongo, jusque-là, le clan Nguesso, lui, était passé entre les gouttes. Jamais ses biens en France n'avaient été saisis. C'est désormais chose faite, les Nguesso n'ont plus la jouissance de deux propriétés en région parisienne, et l'enquête devrait maintenant s'accélérer, se réjouit William Bourdon, avocat de l'ONG Transparency.
Les juges saisissent pas un bien immobilier comme ça, ils le font que parce qu'ils en réunissent quelqu'un ici, des éléments très probants, laissant présumer très largement que les moyens de paiement pour acquérir ces biens étaient frauduleux.
Des saisies illégales ne cessent pourtant de marteler avec force la partie adverse, Jean-Pierre Versigny-Campinki, avocat de la famille Nguesso.
La France n'a aucune espèce de compétence pour enquêter et même qualifier le détournement de fonds publics d'un pays étranger souverain. Et la justice tourne en rond en saisissant par-ci, en saisissant par-là. On continue à faire ce que je qualifierais de mousse.
Mais les investigations se poursuivent. Pourtant, les magistrats soupçonnant fortement le président du Congo et ses proches de détourner à leur profit une partie importante de la rente pétrolière de ce pays d'Afrique centrale.
Suite d'une semaine d'actualité, là c'était Alain Dejamet, notre séquence française. Vous voulez réagir? Je ne vais pas vous poser une question sur le budget de la France, c'est un peu particulier. Nadine Morano et la race blanche vous inspirent un commentaire?
Les mots ont un sens. Certains mots. Doit-on supprimer les mots pour éviter de parler du fond? C'est ça l'essentiel. Ouais. La réalité, ce que l'on nous demande, c'est de nous respecter les uns les autres, plutôt que de faire la chasse à un mot, par exemple. Ouais. Alors là, c'est tout le problème de la liberté d'expression.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, la liberté d'expression en France est un peu...
Non, mais je veux dire que il ne faut pas confondre la réalité des combats et puis la forme, l'apparence. Encore une fois... utiliser un mot doit conduire à réfléchir au sens donné à ce mot et non pas simplement à un déni de du mot lui-même. Voilà, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus grave. On nous demande non pas de lancer des anathèmes contre une expression, mais de chercher véritablement à corriger les raisons des situations qui peuvent conduire à ces expressions.
Alors la saisie de biens immobiliers du président congolais, vous inspirez un commentaire aussi.
Là encore, il y a certainement des procédures judiciaires qui sont en cours. On parle de présomption, on parle de soupçon. Il faut attendre quand même que la justice soit totalement rendue. Ce qui est certain, c'est que des dirigeants africains seront peut-être surpris de ce qu'on parle surtout de dirigeants africains à propos de ces problèmes, alors que les acteurs de biens immobiliers à Paris sont nombreux. Ils ne viennent pas tous d'Afrique. Alors, est-ce qu'il y a la même curiosité, les mêmes soupçons? Je pense que tout ceci alimente chez les Africains, et pas uniquement chez les dirigeants, de temps en temps l'idée qu'il y a peut-être parfois deux poids, deux mesures. Voilà,
c'est comme la Cour pénale internationale dans un autre.
On a retrouvé les mêmes réactions, et vous savez, ça va loin quand même, parce qu'il y a des résolutions prises par l'organisation africaine, où ils sont un peu surpris de cette espèce de mise en vedette. Mais dans ces affaires, encore une fois, la justice est saisie, elle n'a pas été au terme de ces investigations.
Alors, puisque nous parlons de justice, Alain Dejamais, j'ajoute que le parquet de Paris a ouvert hier une enquête préliminaire pour tromperie aggravée sur le scandale des moteurs diesel truqués des voitures Volkswagen, une autre grande affaire de l'actualité. C'est un commentaire là-dessus.
Parce que là, ça vise probablement, je parlais justement des pays africains, et là, on parle quand même d'un autre pays, quand même à la pointe, que je ne mentionnerai pas, mais enfin, à la pointe des technologies, etc. Oui. Et ça doit nous amener quand même à quelques, effectivement, réflexion sur les statistiques qui seront évoquées lors de la conférence sur le climat, sur les engagements qui seront pris. Il faudra véritablement savoir s'il y a réalité derrière tout cela. Encore une fois, je me méfie de l'importance accordée aux mots. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité derrière le mot. Réalité derrière les engagements pris, par exemple, pour la lutte contre la pollution, alors que on a pu constater, et cela ne venait pas d'un pays africain ou d'un pays du Sud, qu'il y avait eu apparemment et visiblement quelques manipulations.
Alors l'Allemagne, puisque on faisait référence à l'Allemagne, en tout cas moi je cite le nom, pourquoi pas, fête aujourd'hui même, ce samedi, le 25e anniversaire de sa réunification, dans le contexte que l'on sait, c'est-à-dire cet accueil de réfugiés qui singularise l'Allemagne aujourd'hui.
Oui, mais je ne crois pas que l'on utilisait le mot de réfugié lorsque l'Allemagne accueillait avant 1990, avant la chute du mur, en 1989, lorsqu'elle accueillait ses frères venus d'Allemagne de l'Est. Mais il est certain qu'une tradition d'accueil s'est affirmée en Allemagne, très distincte de l'appel qu'elle pouvait faire aux main-d'œuvre aux étrangères dans une autre période. C'est un renversement, il y a des mouvements de population, mais là ils sont éclairés d'une autre façon. Et je crois que l'on ne peut que se réjouir de ce que l'Allemagne se montre aussi généreuse aujourd'hui. Attention quand même, là encore, à certaines expressions, attention à certains engagements que l'on ne pourrait pas tenir. Il faut tenir compte des réalités. Et l'Allemagne me paraît s'y être engagée après certaines déclarations de Mme Merkel. Elle est devenue maintenant plus consciente des problèmes que cela posait à certains pays entre les zones de départ des réfugiés et elles-mêmes.
Alors avant de partir pour l'Afrique, précisément, Alain Dejamais, je voudrais vous poser une question à la fois personnelle et qui nous permettra de comprendre comment fonctionne l'ONU. Quand vous étiez ambassadeur représentant permanent de la France aux Nations Unies, quel était votre travail? C'est un travail d'alerte constamment, de prise de position avec évidemment le Quai d'Orsay sur tous les grands dossier dont se saisit le Conseil de sécurité, c'est-à-dire toutes les affaires internationales.
Oui, parce que le Conseil de sécurité ne se réunit pas exceptionnellement pour telle ou telle affaire, il se réunit pratiquement quotidiennement, puisqu'il est informé de tel ou tel problème. Et vous avez parfaitement raison, alerter, c'est effectivement mentionner à Paris telle ou telle chose que nos autorités savent peut-être, pas toujours, et leur demander une réaction. Attention, la solution ne viendra pas toujours des Nations Unies, loin de là. La solution peut venir des gouvernements se réunissant dans d'autres cadre, c'est le résultats, par exemple, pour l'Ukraine.
Mais tout passe aujourd'hui par les Nations Unies.
Beaucoup passe par les Nations Unies. Je dis bien, beaucoup passe par les Nations Unies, mais la clé de la solution ne relève pas toujours des Nations Unies, et loin de là. Regardez pour la Yougoslavie, où ce sont des diplomates américains qui estiment avoir fait le travail, alors que les Nations Unies, c'était autre chose. Ils étaient chargés de maintenir dans des conditions extrêmement difficiles le maintien de la paix, mais ce n'était pas eux qui élaboraient la solution pour la crise balkanique. Et dans l'affaire Ukraine, on voit également que c'est un autre format qui s'est saisi du règlement du problème et qui travaille très sagement. Vous le savez, c'est la France, l'Allemagne, la Russie et puis l'Ukraine. Mais il y a malgré tout incontestablement à côté les Nations Unies qui alertent, qui sont informées et qui souvent fournissent ensuite les moyens de mise en œuvre d'une solution.
Alors on parle souvent quotidiennement des intérêts géopolitiques, de la réelle politique, oui. De l'égoïsme des nations. Mm-hmm. Et il faut souligner aussi l'importance, je trouve qu'on ne le fait pas suffisamment, du contact personnel des diplomates, c'est-à-dire le contact, les négociations, le contact.
Évidemment, ça peut se passer en dehors des Nations Unies et incontestablement les chimies personnelles qui peuvent se... si vous relisez les mémoires de Richard Holbrooke, qui s'est présenté, il est mort et donc il faut avoir pas mal de respect pour sa mémoire, mais Richard Holbrooke s'est présenté comme véritablement l'artisan de l'accord de Dayton. Il est tout à fait intéressant de voir à quel point...
Qui a mis fin, en principe, on l'espère, au conflit dans l'ex-Yougoslavie.
À quel point il a développé une relation personnelle avec un personnage qui était fort honni à l'époque, qui était Milosevic, et qui pendant un moment d'ailleurs poursuivi par la Cour pénale internationale. Alors ça n'empêchait pas ses entretiens, ses contacts avec... Bon, alors Dieu merci, c'est pas le cas, on ne vit pas uniquement avec des gens qui sont poursuivis par... Mais vous avez raison, il y a une... Alors ça n'exclut pas quand même parfois des prises de langage, enfin, qui peuvent être assez raides, mais 15 personnes qui travaillent tous les jours pratiquement ensemble, 15 personnes, ça peut-être parfois permettre quand même de se rapprocher d'une formule, d'un accord. Je pense que le ministre russe Sergueï Lavrov, qui a passé presque la totalité de sa vie aux Nations Unies, on a tiré quand même une certaine espérance, et ce qui lui permet encore d'avoir un contact avec, heureusement, les gens de l'Occident.
Une semaine d'actualité.
Et de nouveau, Alain de Jamais, la fièvre en Centrafrique au début de la semaine, barrage d'Anti-Balaka, pillage, marche sur le palais présidentiel. Alexis Guilleux a fait un point lundi.
Dès le coucher du soleil, les pilleurs ont pris d'assaut des bâtiments abandonnés. Des bureaux d'organisations humanitaires comme ceux de l'ONG Mercy Corps ont également été visés. Selon nos informations, des renforts anti-Balaka seraient arrivés à Bangui depuis l'intérieur du pays en fin de journée hier, donnant ainsi un sentiment de puissance dans les rangs des manifestants. Dans la soirée, la République démocratique du Congo a fermé sa frontière avec Bangui. En fin d'après-midi, lundi, près de 600 prisonniers sont parvenus à s'échapper de la prison de Ngaragba à Bangui. Des gardiens des forces armées centrafricaines auraient déserté, laissant ainsi les prisonniers libres de sortir. Une fusillade entre détenus et forces internationales stationnées à l'extérieur de la prison a alors éclaté. La grande majorité des détenus est parvenue à prendre la fuite, parmi eux beaucoup d'anti-Balaka. Lundi, manifestants et forces de l'ordre se sont fait face toute la journée. Les manifestants ont pris la direction du palais présidentiel en chantant des slogans anti-français et en demandant la démission du gouvernement de transition. Les casques bleus ont été déployés dans plusieurs axes de la capitale pour démonter les barricades installées par les manifestants. Les soldats de la force Sangari s'assuraient, eux, la protection des sites d'intérêt français.
La situation est évidemment à suivre dans nos journaux. Centrafrique toujours. Écoutez ce reportage maintenant de Matteo Guidou, jeudi à l'hôpital de Bangui, la capitale.
En arrivant devant l'entrée de l'hôpital général à Bangui, tout est étrangement calme, trop même, alors que depuis le début du week-end, les affrontements n'ont pas cessé. Les quartiers restent paralysés par de nombreuses barrières. Les blessés doivent guetter une accalmie pour rejoindre les structures de santé. Linda Gawaou est la chef de mission par intérim pour Médecins Sans Frontières.
Les principaux blessés qu'on a reçus sur les deux derniers jours sont des blessés par arme blanche, des personnes qui ont pu patienter malheureusement dans les différents quartiers de Bangui, et qui, au moment où il y a eu une accalmie et les mouvements possibles, se sont rendus à l'hôpital général.
Mahamat a été blessé dans les affrontements. Il a presque eu de la chance. Il a pu rejoindre l'hôpital samedi. Il prenait le petit déjeuner dans le quartier majoritairement musulman du PK5 quand des tirs ont éclaté.
J'étais en train de prendre le café aux alentours du PK5. Il était tôt. Quand ça a commencé à tirer, mes amis et moi, on s'est mis à courir. Je n'ai pas tout de suite réalisé que j'avais été touché, mais quand j'ai touché mon ventre, ma main était pleine de sang. J'ai été emmené ensuite à l'hôpital.
Médecins sans frontières, comme d'autres ONG, insistent, l'accès aux soins et le travail des humanitaires doit être garanti.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, Alain Dejamé, au Burkina Faso cette fois, et l'assaut de l'armée contre les soldats de l'ex-régiment de la sécurité présidentielle mardi. Le lendemain, le président de la transition, Michel Cafando, est allé sur place. Reportage de notre correspondant Yaya Boudani.
Des impacts de balles sur la clôture, des portails défoncés, des blindés stationnés, des soldats armes au poing et sur le pied de guerre, le camp de l'ex-régiment de sécurité présidentielle était sous haute surveillance au cours de la visite du président de la transition. Depuis le camp, Michel Cafando s'est adressé à la nation.
Honneur à cette armée nationale qui a réussi la prouesse tenant du miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, ni du côté des loyalistes, ni du côté des insoumis. J'ai rencontré la hiérarchie de l'armée et les boys venus faire le travail. Au nom de la nation, en votre nom à tous, je les ai félicités pour leur patriotisme, leur vaillance, leur héroïsme. Une page de notre histoire est ainsi tournée. Le nouveau Burkina est en marche.
Plusieurs soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ont déjà regagné le camp des forces régulières selon l'état-major général des armées. Quant au général Gilbert Diendéré, il se trouve dans une représentation diplomatique et les négociations sont en cours pour sa remise aux autorités de la transition, selon le gouvernement.
Dernière étape de notre voyage africain cette semaine, Alain Dejamé, l'Afrique du Sud, où semble-t-il les Sud-Africains commencent à se mobiliser contre la corruption. Correspondance jeudi d'Alexandra Brangeon.
Le message hier après-midi était clair. Les Sud-Africains en ont assez de la corruption et appellent le gouvernement à agir rapidement. Ils étaient pourtant à peine 5000 à défiler dans les rues de Pretoria jusqu'au palais présidentiel. Mais selon David Lewis, organisateur de la marche et président de Corruption Watch, une petite vague peut rapidement se transformer en raz-de-marée.
Ils ont intérêt à nous écouter de là où ils sont, parce qu'une petite vague peut devenir un tsunami. Et ils feraient bien de regarder leurs amis au Brésil, en Malaisie, ou même le président du Guatemala qui est maintenant en prison.
Une faible participation qui s'explique par l'absence du principal syndicat opposé au gouvernement, NUMSA, qui n'avait pas obtenu l'autorisation de défiler. Svelenzima Vavi, ex-secrétaire général de la puissante centrale syndicale COSATU, a mis en garde. Cette manifestation n'est que le début.
Le gouvernement dit « Nous nous y attaquons. Nous avons arrêté 177 fonctionnaires corrompus. Mais pas un seul ministre adjoint n'a été arrêté. Nous voulons des réponses sérieuses. C'est le seul langage que nous voulons entendre quand nous reviendrons ici le 14 octobre. »
Car les syndicats ont prévu à leur tour de manifester mi-octobre, puis à nouveau en novembre. Il s'agit d'accentuer la pression sur le gouvernement ANC et notamment sur le président Jacob Zuma à 6 mois des élections locales.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Un salut aujourd'hui à Awa et à Diémé qui nous écoutent à Dakar. Bonjour à Djibril. Bonjour à deux auditrices qui nous suivent en France, Karen dans le sud-ouest et Sophie en Normandie. Je salue également Modibo à Abidjan, Fadiou à Bruxelles, Jean-Claude à Johannesburg et une petite dédicace à Eric Amiens, l'animateur du club RFI qui fête ses 20 ans. Club à qui je souhaite évidemment un bon anniversaire.
7 jours en Afrique.
Vous Vous écoutez RFI et vous avez bien raison. Nous sommes toujours en compagnie d'Alain Dejamet qui écoute tous ces sujets de l'actualité avec une grande attention. Vous vouliez dire un mot sur la Centrafrique, la situation, cette résurgence au début de la semaine de violence. Centrafrique où l'ONU est présente aussi, comme dans beaucoup de pays africains. Sur 16 missions de maintien de la paix, il y en a 9 qui sont déployées en Afrique et en RCA. Il y a donc la MINUSCA créée en 2014. La Centrafrique,
oui. Alain Dejamet. Tristement, pour rappeler que l'actualité internationale, les drames, les crises, ce n'est pas uniquement le Proche-Orient ou même l'Ukraine, et qu'il est tout à fait nécessaire qu'un grand média international braque le projecteur aussi sur les situations en Afrique. Et là, d'où l'utilité aussi de revoir, alors là, effectivement, le rôle des Nations Unies, c'est un rôle modeste, peu connu, effectivement, mais quotidien, de ravaudage, d'essai. Alors, les plans de sortie de crise, ils sont peut-être développés par des gouvernements entre eux, mais on confie l'exécution, et ça démarre par le maintien de la paix aux forces des Nations Unies, et ce sont elles, avec les Français qui les épaulent, comme en Centrafrique, qui ont le douloureux, très difficile et ingrat travail d'essayer tant bien que mal de calmer les esprits, de séparer les belligérants. Alors c'est le travail absolument quotidien qui est fait par ces opérations. On n'en parle pas tellement. Ils n'ont pas le succès des règlements. Ce sera une conférence, ce sera un accord parrainé par tel ou tel État. Mais dans la vie quotidienne, ce sont ces forces des Nations Unies déployées 100 000 hommes, majoritairement en Afrique, qui s'efforcent tant bien que mal de calmer les situations.
Et le Conseil de sécurité, voilà. Alain Dejamet, est souvent saisi d'affaires africaines.
Alors là, le Conseil de sécurité, je le répète, dans ces cas-là, le Conseil de sécurité est obligé de faire ce qu'on appelle de la micro-gestion, c'est-à-dire qu'il ne va pas réaffirmer les grands principes, compromis, etc., règlement politique, mais il va devoir essayer de faire en sorte que sur place, les forces des Nations Unies se comportent bien, il faudra veiller à ce qu'elles se comportent bien, mais qu'on obtienne quand même ces cessez-le-feu. C'est un travail quotidien absolu. Et
il faut rappeler que l'ONU a déploie à ce jour près de 130 000 personnes dans les missions de maintien.
Alors,
de la paix.
Un autre mot quand même, c'est à propos de l'Afrique du Sud, parce que vous savez, on a parlé dans les dernières années avec beaucoup d'entrain, d'emballement des pays émergents, et on découvre aujourd'hui l'autre versant, qui est la corruption. Et d'ailleurs, il avait raison, celui qui s'exprimait, et qui rappelait également que ça a fêté le Brésil, ça a été le cas aussi pour la Chine. Il doit, les pays émergents, au bout d'un certain temps, ils font la vedette, on parle d'eux comme ceux qui défient véritablement les autres vieilles puissances, etc. Et puis on constate que finalement leur actualité, ça va être de lutter contre la corruption. Brésil, Afrique du Sud, oui, ils faisaient partie des BRICS. Russie en partie, et puis Chine. La Chine, le combat est bien engagé, très sévèrement, très violemment, mais c'est nécessaire. Et je crois qu'au Brésil, ils commencent à se rendre compte, et en Afrique aussi, ça paraît être quand même une démarche saine.
Alors vous avez écrit, je le rappelle, l'incendie planétaire, que fait l'ONU, un petit livre qui est en fait un plaidoyer pour les Nations Unies, malgré tout, j'allais dire, avec cette question en sous-titre, que fait l'ONU ? C'est une question qui revient périodiquement, comme si l'ONU était un pouvoir en soi, en fait.
Vous avez entièrement raison. L'ONU n'est pas un pouvoir en soi. L'ONU, vous aviez pas raison d'évoquer le mot alerte, et puis suivi aussi. Les règlements, sauf évidemment les conventions internationales qui peuvent être parrainées par les Nations Unies, mais le règlement d'une crise politique, c'est 2, 3, 4, 5 personnes, pas nécessairement membres permanents du Conseil de sécurité. Regardez le rôle de l'Allemagne dans l'affaire ukrainienne avec la France et la Russie. Mais l'ONU alerte d'une part, et puis suit, et met en œuvre ensuite. Alors peut-être que pour l'Ukraine ça sera différent, mais il est évident que pour l'Afrique ce sont des forces des Nations Unies. Donc, que fait l'ONU ? Eh bien, l'ONU fait ce travail obscur. Voyez, on a beaucoup douté de ce que la FINUL créée au Liban, entre oui. Israël, puisse véritablement servir de tampon, enfin calmer un tout petit peu les choses entre Israël et le Liban jusqu'à présent. Et pourtant, dans une zone extraordinairement explosive, tant bien que mal, il n'y a pas trop d'accro à la frontière israélo-libanaise. C'est peut-être en partie grâce à la présence de ces hommes que l'on jugera de loin, inefficaces, étranges, etc., ces observateurs des Nations Unies. Voilà, que fait l'ONU ? L'ONU, elle fait ce travail ingrat.
Alors, j'ai fait une petite enquête, et on va terminer avec ce numéro d'une semaine d'actualité à de jamais. J'ai sous les yeux deux pages d'un article du New York Times qui vous était consacré quand vous étiez en poste aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, parce que vous avez, vous, le monsieur très sérieux, le diplomate, écrit un petit livre, je ne sais pas un livre, c'est un texte en tout cas, qui s'intitule dormir aux Nations Unies. Vous avez repéré 12 endroits au siège des Nations Unies où finalement on peut faire la sieste, non, c'est ça?
Non, pas la sieste, mais enfin les gens travaillent beaucoup, se fatiguent beaucoup, mais certains de temps en temps fermaient leurs paupières. Au Conseil de sécurité, moi j'avais un de mes collaborateurs qui s'était chargé lui-même, c'était pas la mission que je lui avais donnée, de recenser les minutes pendant lesquelles certains membres du Conseil de sécurité fermaient leurs paupières et dormaient. Voilà, alors on avait un petite statistique sur les moments. Et j'avais trouvé quand même humain de recenser, à l'usage de ces diplomates gagnés par la fatigue, de recenser les endroits où ils pouvaient bénéficier du silence et du calme. Évidemment, c'était pas un exercice sérieux, c'était ma lettre d'au revoir, d'ailleurs, aux 14 membres du Conseil de sécurité que je quittais, puisque j'allais quitter New York, et je leur avais envoyé un petit test, leur recommandant tel ou tel endroit, dont notamment
un vrai guide,
illustré d'ailleurs, illustré avec des étoiles, évidemment, et je crois qu'ils en ont fait leur profit, ils en ont fait usage, et donc ils m'en ont gardé beaucoup de reconnaissance. Ce n'était pas très sérieux, mais il ne faut pas être nécessairement sérieux, et Dieu merci aux Nations Unies, beaucoup de diplomates avaient un fort sens de l'humour.
Merci à vous le premier, merci Alain Dejamet. Je rappelle que vous avez écrit, entre autres, L'incendie planétaire, que fait l'ONU, un petit livre publié aux éditions du CERF. Merci et à bientôt dans Idée, où nous parlerons de Boutros-Ghali. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Évidemment, je vous retrouve demain pour le magazine Idée, justement, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Notre invitée sera la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, qui depuis des années travaille sur la place de l'individu dans la démocratie. Elle vient d'écrire Les Irremplaçables, à ne pas manquer, demain, 17h10, heure de Paris, sur le site de RFI et la page d'accueil de l'émission. Je vous propose d'ailleurs un article que j'espère complet sur Cynthia Fleury et son livre, je l'espère. Il suffit de cliquer. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.